Bienvenue dans Chambres adolescentes, le podcast. Des portraits en photo et en mots réalisés par Juliette Masse et Jovitech à retrouver sur www.chambresadolescentes.fr.
Souleymane, 18 ans, sa chambre est à Pézenas, dans l'Hérault. Écrire en noir sur des murs blancs. Il est à l'heure. Il nous attend sagement quand le directeur de l'association, Sam Enras, nous invite dans son bureau pour nous rappeler le cadre à respecter avec les jeunes. Souleymane est majeur, il pourra donc signer seul l'autorisation du droit à l'image que nous demandons aux participants. Pour les mineurs, en revanche, l'aide sociale à l'enfance devra donner son accord. À ce moment, j'espère que les tuteurs en charge de la protection des jeunes seront aussi ouverts à notre projet que les parents rencontrés, parce que sans l'accord des adultes, la libre expression adolescente est impossible. Finalement, tout se passera bien. Et je tiens à remercier l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et l'Hérault, et toute l'équipe de l'association pour leur soutien et leur accueil chaleureux. Toutefois, dans le bureau du directeur, en ce premier jour de résidence à Pézenas, l'entretien dure, et nous avons rendez-vous avec Souleymane, qui nous attend patiemment dans la pièce d'à côté. Avant de nous laisser partir, le directeur évoque la possibilité de l'anonymat des portraits. Sa prudence est légitime et très professionnelle, mais je me permets de lui rappeler que justement, Chambre adolescente est une invitation à lutter contre l'invisibilité des jeunes et que nous ne publierons rien de toute façon sans leur accord. J'ignore encore que l'adolescent discret qui nous attend dans le bureau à côté est de mon avis, et que dans un de ses cahiers, il a écrit
« Avant d'arriver en Europe, j'avais un nom et un prénom. Mais arrivé dans ce continent sans papier, on m'a choisi un nom et un prénom. Le nom qu'ils m'ont donné, c'est étranger, et le prénom est migrant. »
Un quart d'heure plus tard, nous suivons le garçon au regard intense et à la démarche souple dans les rues étroites de Pézenas, ville hérotaise qui est aussi la mienne, et que Souleymane dit connaître comme sa poche. C'est petit ici. Alors parfois, il prend le bus jusqu'à Montpellier, mais depuis son apprentissage, au-delà des cours à la paillade, il n'a plus tellement le loisir d'y aller. Nous parvenons devant chez lui, un bel immeuble en pierre, datant de la fin du XVIIe siècle. Comme la plupart des jeunes accueillis, il réside au cœur de la ville historique. C'est important pour eux. Tous le diront. Être au centre, pas en banlieue. Être au milieu des autres, de la vie économique et culturelle, des touristes l'été et des festivités à l'année. Non loin de là, les cloches de la collégiale Saint-Jean, qui sonnent toutes les demi-heures, scandent sa vie et rythmeront notre entretien. Au troisième étage, l'appartement est propre, rangé. Dans la cuisine-salon émerge son coloc, pas forcément bien réveillé, ni au courant de notre venue. Alors pour ne pas le déranger, Souleymane nous invite directement dans sa chambre. Je balaye vite fait la pièce du regard. Un t-shirt bleu, bousquet père et fils, climaticien, chauffagiste. Des chemises sur cintre, un portrait d'Einstein en pop art, un bureau sur lequel traîne un dico d'anglais et une ancienne anthologie de poésie française. Au sol, des cahiers, des livres, l'ordi rouge de la région, offert à tous les étudiants d'Occitanie. Je remarque immédiatement les textes au mur. Des mots partout, les nombreux livres aussi qui traînent à côté de son lit. Le rideau est tiré, il préfère, à cause du soleil qui tape fort en cette fin d'été. Nous lui demandons l'autorisation de l'ouvrir. La vue donne sur le mur d'en face, ça le fait rire. Étrange décor universel soudain révélé. Fenêtre intemporelle d'une chambre d'étudiant versée sur une ruelle étroite. Vu d'ici, nous pourrions être n'importe où. À Alger, Bamako, à la Havane, ou dans un de ces pays où le soleil donne autant qu'il prend. Souleymane nous offre deux chaises. Lui préfère s'asseoir sur son matelas, qu'il a déposé à même le sol, parce que les sommiers, nous dit-il, franchement, ça fait vieux. Après quelques essais de voix, l'entretien peut démarrer. Et c'est Souleymane qui l'entame, même pas le temps de poser une question. Il prend le pilotage, il va à l'essentiel.
Bon, je vais montrer quelque chose d'abord avant de commencer, moi.
Bien sûr.
Ça, c'est... Parce que parfois j'écris un peu des textes comme ça là.
Ah, super.
Il m'arrive des fois de faire. Bon.
J'ai un autre là aussi.
Qui est là, mais celui-là, j'ai... c'est sur mon pays en fait, la Guinée. Qui est...
Tu écris sur ton pays?
Oui.
Là. Il sort de son fatras des feuilles libres, puis un carnet d'écriture, un cadeau de Delphine, son éducatrice. Il me tend tout ça. Je me méfie. Je suis toujours un peu sur mes gardes quand les ados me font lire leurs textes. Il n'est pas aisé de leur rendre des retours constructifs. Tous ne sont pas prêts à accepter la critique. Souleymane, je sens que si. C'est d'une voix singulière, urgente, nécessaire, vitale qu'il s'exprime, dans cette langue étrangère qu'il a faite sienne pour exister. Ce que je lis est bon, étonnant, engagé, à vif. Quand je relève la tête de son cahier, je croise son regard, intense, profond, lumineux. Je le félicite. Il se redresse, moi aussi, curieuse de découvrir ce que du monde, ce garçon brillant, souhaite nous dire. Bienvenue dans la chambre de Souleymane, un espace de réflexion à fleur de peau. Sur les murs blancs, des textes scotchés témoignent du souffle poétique et philosophique de Souleymane, qui nous accueille entre une ode à la lune et une série d'aphorismes percutants, tels que « Si chacun savait ce que chacun disait sur chacun, chacun se méfierait de chacun. » Ou encore « Les gens bouffent la chair de leur prochain, africain ou européen, ça, c'est l'humain. » La majorité, en tout cas. Et puis aussi « Un jour, tu rencontreras quelqu'un qui te fera comprendre pourquoi ça n'a jamais fonctionné avec un autre. » Souleymane écrit depuis qu'il est arrivé en France. Il écrit sur son pays, la Guinée, sur l'Afrique, le racisme, l'amour, mais aussi à l'intention des jeunes qui souhaitent réveiller et inviter à plus de partage, et surtout à éteindre la télé, parce qu'il dit « À force de regarder la télé, on devient aveugle. La télé, elle ne nous regarde pas, et on ignore toutes les réalités de la vie. » Un de ses textes se nomme « La traversée » et commence comme ça. « Je m'appelle Souleymane. Comme tous les Souleymanes, je viens de nulle part. C'est pourquoi on m'appelle Alaorb. Parole des hommes en langue peul. Je ne suis ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, mais de toutes les couleurs. Ce petit texte s'intitule « La traversée », mais pensez-vous que le monde peut avancer sans nous? Mais non. Nous devons nous battre pour construire un monde meilleur. Nous devons être optimistes, mais pas opportunistes, en mettant de côté la distinction des races. Je parle au monde, mais surtout à la jeunesse d'aujourd'hui, qui n'est pas sur la bonne voie. Je ne parle pas de « je », de « tu », de « il », mais de « nous ». Parce que les gens ont tendance à oublier ce terme-là, « nous ». Et si on veut un monde meilleur, nous devons être là, l'un pour l'autre. Souleymane ne sait ni lire, ni écrire en poulard. Car dans les écoles guinéennes, on ne lui a pas appris à écrire dans sa langue. Il dit « La parole s'en va, et l'écriture reste. C'est comme si tu disais « Le noir s'en va, et le blanc reste. » Amertume et colère d'un garçon intelligent qui sait qu'une langue, ce n'est pas que des mots, mais une culture, une pensée, une origine, et que c'est bien cette diversité-là qui risque de disparaître si l'éducation dans son pays n'est pas à la hauteur des enjeux. Souleymane est fier de ses origines, de sa couleur de peau. Il voudrait que cette existence noire, qui amène toujours les hommes et les femmes d'Afrique sur les routes, à fuir pieds nus et à tendre la main aux blancs, se redresse. Il a beaucoup à nous dire sur ce sujet du haut de ses 18 ans. Il s'exprime avec douceur, sans haine, mais fermement. Pendant notre entretien, il ne cessera de dire sa gratitude à ceux et celles qui l'aident. Toutefois, il aimerait qu'on prenne le problème à la racine. L'écriture vient de la colère, sublime exutoire, qui chez Souleymane prend une dimension politique et philosophique.
Bah, parce que ça me permet, comment dire, de me défouler un peu avec mes émotions, tout ça là. Et avec tout ce que j'ai dans la tête aussi, ça me permet aussi de me libérer de mes pensées. Et d'essayer aussi de voir les choses autrement. Et en plus, d'expliquer aux gens des choses que, qu'ils ne savent pas ou qu'ils savent mais qu'ils ignorent tout ça là pour qu'ils puissent bien le saisir et savoir que cette chose c'est de la réalité, ce n'est pas des imageries en fait.
Souleymane écrit à la main dans cette chambre où il se sent bien. Une écriture engagée pour l'Afrique et contre la domination blanche. Des textes qui reprennent les concepts de la négritude développés par les écrivains Léopold Sédar Senghor ou Aimé Césaire, que pourtant il n'a même pas lu. Dans Rappel conscient, il écrit.
Il nous sous-estime parce que nous nous sous-estimons nous-mêmes. Nous avons toujours dans notre mentalité qui sont supérieures. Nous avons été sous la domination arabe, puis européenne et américaine. Nous pensions que nous ne valions pas la peine. Nous nous sentions inférieurs alors que nous avons été créés de la même façon. Nous sommes nés de la même terre. Notre seule différence est la couleur de notre peau.
L'écriture le calme, l'apaise et lui permet d'avancer, de trouver l'équilibre.
Oui, ça calme après. C'est comme si tu es libre en fait. Mais au début, quand tu n'écris pas et que ça est dans ta tête, c'est comme si tu étais en prison en fait. Oui, j'aurais beaucoup de choses à raconter quand même. Mais je n'arrive pas à rencontrer les bonnes personnes pour... parce que c'est difficile.
C'est pas...
Bah, les personnes qui pourront en fait t'aider, t'expliquer comment les choses ça marche pour tout ça là, parce que moi je vais pas écrire pour avoir en fait, j'ai pas envie d'écrire pour chercher de l'argent, mais en fait c'est comme si c'était une passion en fait.
Ouais.
Donc c'est comme ça.
Cette passion, pas facile de la partager avec les autres jeunes de l'association. On sent bien qu'il a besoin d'être nourri, Souleymane, et qui ne sait pas où trouver ses ressources. Il a bien une carte de bibliothèque, mais il n'y va pas, pas l'habitude. Autour de lui, heureusement, il y a Françoise, Colette, les bénévoles qui le soutiennent, l'aident à corriger, à mettre en page ses textes sur l'ordinateur, et bien sûr, ses éducateurs, dont Natacha, qui lui offre des livres, et avec qui il aime bien parler d'astrophysique. C'est elle qui, pour ses 18 ans, lui a offert l'affiche du portrait d'Einstein par Andy Warhol. Souleymane a soif de connaissances et d'échanges. À Pézenas, il a un peu de mal à se faire de nouveaux amis.
Surtout à Pézenas, c'est une ville qui est petite. C'est difficile de faire des rencontres, tout ça là. Donc
Pourquoi c'est difficile de faire des rencontres à Pézenas?
Parce qu'il n'y a pas de lieu, des endroits où les jeunes peuvent se mobiliser pour tout ça là. Donc tu sors, tu rentres, tu vas au boulot, tu reviens. Donc tu n'as pas grand chose à faire. C'est pas comme dans les grandes villes pour dire. Il y a tel ou non.
Pourtant ici, il y a... Tu veux dire qu'il n'y a pas assez d'espace ici où les gens se rencontrent?
Bah, je vois pas quand même trop. Ou peut-être les gens sont moins sympas ou je sais pas, ils sont réservés ou je sais pas.
En attendant, quand il n'écrit pas, il lit des romans ou de la philo pour se nourrir et s'ouvrir l'esprit, comme il le dit. Il a dernièrement adoré L'alchimiste de Paulo Coelho et va se lancer dans Le prophète de Khalil Gibran. Près de son lit, on trouve aussi 1984 d'Orwell et une série de conférences non vulgarisées autour de la relativité générale. Ce n'est pas le t-shirt « Bousquet père et fils » qu'il porte pour travailler que Souleymane a accroché sur son mur, mais un autre, un neuf, qu'il aime avoir dans sa chambre parce que, nous dit-il, bah, ça fait partie de sa vie maintenant.
Là, c'est la chemise parce que je travaille avec ça. Pas totalement, mais...
C'est l'entreprise avec laquelle
c'est l'entreprise avec laquelle je travaille, parce que père et fils, qui... Et mon patron, il habite à Tourbe. Et c'est un mec sympa, tranquille.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
C'est important.
Ouais, c'est important dans le travail. S'il y a l'ambiance, tout le monde... Tu bosses bien, c'est que tu fais moins de conneries, mais quand il n'y a pas l'ambiance, tout le monde est tendu, c'est l'enfer en fait.
Vous êtes combien dans,
Donc pour l'instant, on est deux, c'est moi et le patron.
Ah d'accord.
Ah ouais.
C'est cool.
Souleymane est actuellement en deuxième année d'apprentissage climatisation, installation thermique, et il se rend toutes les trois semaines au CFA de Montpellier à la Paillade pour des cours théoriques. Quand en 2019, il arrive à Montpellier, il a 15 ans, et il reste 6 mois dans sa chambre d'hôtel sans scolarité, en attendant la rentrée. À ce moment-là, ses éducateurs sont débordés, il les voit peu et s'ennuie. Il se retrouve seul dans une chambre et c'est la première fois. Il dit que maintenant il préfère vivre seul, mais que quand il est arrivé, il n'aimait pas ça. Il n'arrivait pas à caler les choses dans sa tête. Il dit que depuis qu'il est en Europe, il a beaucoup usé son cerveau. Il réfléchit beaucoup. À Montpellier, on lui fait passer un test scolaire et grâce à son beau niveau, on lui propose de faire sa rentrée à Pézenas en seconde générale.
Bon, je voulais le début parce que j'avais une envie, je ne sais pas si j'avais les capacités dans ma tête de le faire.
Bon. Oui.
Mais j'avais envie depuis fort longtemps de faire la pharmacie. Oui. Et du coup, je voulais accepter. Mais vu ma situation et vu le département, il disait à tes 18 ans ou ma centrique, ils n'allaient pas nous prendre en charge, tout ça là. Donc j'ai douté et j'ai dit, c'est pas possible. Et s'il y a une autre voie, je vais emprunter cette voie pour voir.
Il commence finalement une seconde bac pro en SAPAT, service aux personnes et au territoire. Il fait un trimestre au lycée de la Condamine, obtient une moyenne générale de 17, mais ça ne lui plaît pas vraiment. Rien à voir avec la pharmacie. Trop loin de ses envies. Il préfère bifurquer carrément vers un tout autre métier et s'inscrit au lycée professionnel de Bédarieux en filière installation thermique. Et puis, la Covid débarque. S'en suivent les cours en visio, les confinements successifs, le retour à la solitude, bref, il va comme pas mal de jeunes décrocher. D'ailleurs, il a un petit carnet vert spécial confinement qu'il retrouve sous une pile de classeur.
Le confinement, c'était l'enfer. Le confinement, j'avais écrit même des choses au moment du confinement, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en ordre avec les gens qui avaient l'habitude de m'aider. Je les ai même pas montré ça. Ça, j'avais écrit ça et je pense qu'il y avait une autre.
C'est un autre petit carnet ?
Oui.
Souleymane accepte de me faire lire les écrits de confinement et de nouveau, je découvre des phrases magnifiques. Il a une perception très fine de ce qu'il traverse et qui le traverse. Un regard éclairé et du style, comme lorsqu'il écrit des images dingues de la ville de Paris où les rues sont vides. On a l'impression que tous les habitants ont été évacués dans un autre monde. Ou encore, j'entends l'église sonner qui appelle les croyants. Mais est-ce possible de répondre à l'appel de l'église après cette épreuve que Dieu nous fait et face à un ennemi invisible ? Et puis je lis cette phrase sublime, terrible quand on imagine ce qu'il a vécu avant d'arriver là. J'ai connu le silence total. Extrait de son cahier de confinement. Très mature pour son âge, Souleymane se qualifie de bizarre, timide, discret, et cela provoque un décalage avec les autres. Pour lui, c'est pas facile de se faire des amis. Il a du mal à faire confiance. Il a des amis, mais il peut pas tout leur dire. Il a beaucoup de choses dans la tête et il n'arrive pas à éclaircir tout ça. Il dit qu'il a toujours été comme ça, mais bon, il a quand même des copains. Les copains, aujourd'hui, ce sont surtout ceux de l'association. Ensemble, ils écoutent de la musique, rigolent et se racontent de vieilles histoires. Je lui demande ce qu'il entend par ces vieilles histoires. Ça le fait rire. Et puis un silence s'ensuit comme s'il cherchait les bons mots pour me protéger de l'innommable.
Bon, parfois, on explique, chacun explique comment il est rentré, de ce qu'il a vécu, ou de ses parents, de comment il les a laissés, tout ça là, comment ils vivent.
Les vieilles histoires de ces garçons de moins de 20 ans qui portent en eux leur avenir, mais aussi l'espoir des leurs, parfois une lourde responsabilité et une obligation absolue de réussite. On comprend alors combien comptent ces fêtes organisées par les éducateurs pour honorer les anniversaires, les départs, les engagements, des petites bouffées d'air qu'ils aiment tous photographier. Souleymane nous précise que parce qu'ils ont vécu des parcours similaires, les jeunes accueillis se comprennent bien et s'entraident. Il dit que même s'il les voit pas souvent, quand t'as besoin de quelque chose, c'est bien, c'est vite fait, et c'est chouette de savoir que quelqu'un est là pour toi. Sur son mur, il a accroché une photo où il rit avec Samba, son copain malien. Juste au-dessus, il a noté une phrase de Bob Marley. « Tu sais jamais à quel point t'es fort, jusqu'au jour où être fort reste la seule option. » Une assertion qui les relie à jamais. Eux et tous les autres, effectivement, n'ont pas eu d'autre option. Avec Samba, ils parlent beaucoup de ça, de tout, se voient souvent dans les apparts respectifs, ou alors vont flâner en ville. Quant aux filles, c'est compliqué. Lorsqu'il était en sapate, elles étaient nombreuses. Il regrette parfois l'ambiance du lycée, comme en témoigne le patchwork de petits mots que les élèves de sa classe lui avaient offert à son départ. En observant son mur, il se souvient d'elles, qui toutes lui souhaitaient alors un bel avenir. Les élèves sont en terminale désormais, il n'a plus trop de contact avec elles depuis qu'il est en CAP. On sent qu'il le regrette, qu'il avait aimé cette vie lycéenne. Plus tard, quand nous évoquons son rapport aux filles, en amitié ou en amour, Souleymane revient sur cette période de vie qui visiblement l'a secoué. Il dit que dans sa culture, c'est différent et qu'avec les filles, c'est de l'amour ou rien. Cette possibilité d'amitié partagée entre les filles est nouvelle pour lui. Il n'y croit pas tellement et trouve l'amitié masculine plus calme et tranquille. Il hésite un peu à s'avancer dans cette partie plus intime de son histoire. Il n'a pas l'habitude de parler de ces choses-là. Mais aujourd'hui, il en a envie. Il nous dit, puisqu'on est en France, je peux parler de sentiments. Alors il se lance dans le récit d'un premier amour au lycée, un premier échec qui va le fragiliser et le laisser échauder. Il était une fois un garçon qui aimait une fille de sa classe alors qu'une autre s'intéressait à lui mais qui ne voyait pas. Lorsqu'il ose se déclarer à celle qui l'obsède et qu'il comprend que cet amour n'est pas réciproque, il se retourne vers l'autre fille. Mais trop tard, l'adolescente vexée l'envoie balader. Il se retrouve seul, malheureux, fragilisé. Fin de l'histoire. Pas si simple. Je lui accorde que l'amour, c'est quand même compliqué et que cela peut faire terriblement souffrir. Souleymane partage avec pas mal de garçons rencontrés cette impression qu'aimer, c'est abandonner sa liberté et prendre le risque de perdre pied. Un vertige d'autant plus difficile à éprouver quand on vient à peine de trouver un ancrage et de se construire un avenir. Alors la plupart d'entre eux préfèrent remettre ça à plus tard, sagement, prudemment, même si c'est pas simple à 18 ans de renoncer à ça.
Peut-être je vais chercher après ou bien ça va venir toute seule. Oui. Et basta. Donc c'est comme
compliqué
ça.
L'amour, hein.
Ah oui. Ah c'est l'enfer.
C'est l'enfer l'amour. L'amour c'est l'enfer.
C'est difficile. Parfois c'est un peu difficile peut-être d'être célibataire, mais bon. Quand même si tu es célibataire, tu es libre en fait. Hein. Tu voles quand tu veux. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Hein. Basta.
Quand tu es quoi?
Célibataire.
Célibataire. Tu n'as pas de compte à rendre.
Okay. Tu trouves que dès que tu as une copine, ça enferme?
Bah oui, même tes amis, tu ne les vois pas, presque quasiment pas. D'autres, parce que d'autres, d'autres, je ne sais pas, d'autres, ça t'as trop. Si elle s'attache trop, donc tu n'as pas forcément de temps.
Et si toi, tu t'attaches trop?
Ah là, c'est mort. C'est pour cela que moi, je préfère pour l'instant. Et quand même, quand je vois d'autres filles, j'ai envie. Mais c'est que je sais pas, il y a une partie de moi qui me dit non, il faut d'abord que tu essayes d'avancer individuellement dans ta vie avant d'entamer ce genre de trucs. Parce que chacun n'a pas la même manière de gérer les choses. Vous voyez? Donc peut-être pour moi, quand je rentre dedans, ça peut me bouffer mon esprit et que je n'arriverai pas à faire d'autres choses que ça. Et d'autres, ils arrivent à gérer tout. Donc je me dis...
C'est rare, hein.
C'est rare. Hein.
On est toujours un peu dépassé par l'amour perturbe toujours ses projets, la vie.
Sur ce point, il se trompe, Souleymane. Rares sont ceux qui arrivent à tout gérer. Surtout à 18 ans, quand on a la fougue, le désir au corps. Mais c'est là aussi, contrairement au modèle de super mec affiché, il faudra du temps pour le comprendre, comme de réaliser que la délicatesse n'est pas un handicap, mais une merveilleuse qualité.
Et ça qui a ses qualités, ses défauts, mais moi j'accepte les qualités des gens et leurs défauts. Parce que moi quand j'aime, c'est que j'aime en premier les défauts avant d'aimer ses qualités.
Ah, chez une fille, tu aimes les défauts?
Oui. J'accepte ça d'abord avant d'accepter. C'est moi, c'est inconditionnel. Quand j'y vais, j'y vais. Quand c'est mort, c'est mort.
T'es un passionné, t'es un romantique.
C'est que ça me bouffe la tête. Quand j'aime, c'est que je ne peux pas, me retenir en fait, ou me contrôler. C'est ça le problème.
C'est pour ça que tu te protèges un peu, quoi.
Oui.
J'ai
peur de trouver quelqu'un qui pourrait me renverser comme ça.
Alors, pour ne pas chuter, il écrit. Il se concentre sur ses études, le travail, les bons copains. Toutefois, lorsqu'il viendra à la maison avec les autres participants du projet, tous reviendront sur les filles et parleront des filles. De ces crushs légers qui leur manquent tant, de ces amours printaniers dont ils le sont privés, de cette religion qui oblige et qui pourtant est vécue différemment ici. Plus tard, sûr, il se mariera. Il nous dit « si j'arrive à trouver la bonne personne, la bonne connexion, la personne qui me convient. » Souleymane veut fonder une famille. Il dit que c'est sa religion, que c'est ses traditions. Se marier, subvenir aux besoins de la famille, rendre heureuses ses enfants, et faire de ses enfants des personnes respectueuses. Et puis ensuite, il ajoute « si je suis encore vivant, en âge de me marier. » Prudence d'un garçon qui, à 18 ans, a déjà vu plusieurs fois la mort en face, et qui passe du tragique à l'humour en un clin d'œil, allant même jusqu'à nous provoquer, Juliette et moi. Il dit « Quand je serai mariée, c'est ma femme qui va s'occuper du ménage. » Bien sûr, en bonne féministe, je tombe dans le panneau, fonce sur la répartition des tâches ménagères aujourd'hui dans le couple contemporain. Souleymane fait l'innocent, me rétorqua « Ah bon ?» avant de me rassurer.
Oh, moi, je suis content quand même que... Bon, on parle d'égalité quand même, mais bon, il n'y a pas... Il n'y a toujours pas d'égalité. Mais c'est bien quand même qu'on en parle, qu'on se dise oui, il y a l'égalité, ma centrique. C'est bien parce que, quand même, moi, quand même, de mon côté, à ma femme, je ferai quand même tout pour elle. Et le ménage, ma sainte, ça, je peux dire juste pour en fait rigoler. Mais.
Ça sera du dialogue en tout cas.
Je serai quand même.
Vu comme tu es, il y aura du dialogue, c'est sûr.
Je lui demande s'il pouvait changer quelque chose dans sa chambre, qu'est-ce qu'il changerait. Et il me dit « Je mettrais plein de papier blanc pour pouvoir écrire sur les murs. Il y aurait une étagère pour mes livres et aussi je changerais mon lit. » Et il dit « Oui, avoir un bon lit, j'en ai marre de celui-ci. » Dans sa chambre, la porte est toujours ouverte et la fenêtre aussi, sauf quand le soleil tape trop. Idem sur l'écran de son ordinateur portable. Les fenêtres s'ouvrent sur le monde et le laisse entrer dans sa petite chambre d'étudiant. Il s'est aussi acheté une télé pour regarder les infos. Il a soif de connaissances, Souleymane. Il lit beaucoup et reste particulièrement connecté avec ce qui se passe en Guinée. Il n'a plus personne là-bas, à part sa mère, avec laquelle il est en contact régulièrement. Elle n'a plus que moi, nous dit-il, avec une voix d'enfant, une voix qui devrait tous nous obliger à prendre soin de ces gamins déracinés.
Pas trop forcément parler de revenir à ton histoire, mais est-ce que tu as des liens encore avec des gens qui sont derrière?
Oui, de ma famille maintenant.
Ta famille,
oui,
tu es en contact?
Ma mère, oui.
Ah, tu es en contact avec ta mère?
Oui.
D'accord. Ça, c'est chouette.
Elle me manque.
Et oui.
Ça va comme j'ai mon titre de séjour. L'année prochaine, peut-être, si tout va bien, c'est sûr, je vais y aller pour la voir et après retourner.
Elle va bien?
Je continue le job, ça va. Je vais tout faire pour qu'il aille bien maintenant.
Souleymane n'a pas eu le choix. Il a dû tout quitter pour exister et il en veut aux responsables politiques de son pays d'avoir, par la corruption et la privatisation de l'éducation, gâché l'avenir de sa génération. Il a une vision politique aiguisée, Souleymane, et pour lui, le renversement du président Alpha Condé, fallait que ça arrive. Nous revenons sur le coup d'État par les militaires sous les ordres du colonel Mamadi Doumbouya qui a eu lieu le 5 septembre 2021, deux jours avant notre rencontre.
En fait, la plupart des gens ne s'attendaient pas à... Pour la plupart des gens qui disent coup d'État. Mais pour moi, ce n'est pas un coup d'État de ma part. De ma part, c'est un soulagement. Et parce que vu que le pays était malmené, et il y avait ce régime dictatorial qui est là. Et du coup, la population vit mal. Donc le fait que Doumbouya et qui s'est présenté pour, en fait, on peut dire, dégager ce mauvais président. Moi, je suis ravi et je suis content. Parce que Alpha Condé, c'est... T'as fait deux mandats, t'as rien fait. Pourquoi tu réclames un troisième mandat? C'est pas possible. La Guinée, ces dernières années, c'est pas la même qu'avant. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, il y a des assassinats, des viols. Tout ce qu'on peut trouver dans des mauvais régimes, en fait. C'est que la Guinée, pour l'instant, c'est invivable. Et vu qu'il y a Doumbouya qui a pu intervenir, mais on espère quand même qu'il ne fera pas comme les autres.
Dans ce pays riche en eau et en ressources minières, mais pillé par les multinationales et gangréné par la corruption, 61% de la population a moins de 25 ans. Une jeunesse sans espoir qui, depuis 3 ans, quitte en masse le pays à destination de l'Europe. C'est ce qu'a fait Souleymane, le cœur lourd, parce qu'il aime cette Guinée, dont il parle avec rage et tristesse et beauté. Ô ma Guinée, que nous aimions tant, naturellement riche par ses ressources, pays où l'accession à l'indépendance a été fulgurante, marquée par le courage et la persévérance de son peuple, comment croire qu'au XXIe siècle, avec toutes les ressources naturelles que nous possédions, nous serions toujours sans route, sans eau potable, sans courant? Et je pleure lorsque je vois la jeunesse qui est la relève, l'avenir d'un pays, se lancer dans cette traversée du désert en prenant tous les risques. C'est son cousin qui l'encourage à partir. Âgé de 20 ans, il lui raconte la vie en Europe, lui promet que là-bas, il sera à l'abri, qu'il pourra étudier, et que comme il est courageux, Souleymane, mais il y arrivera, c'est sûr. À 14 ans, il prend la route avec ce cousin. Il le perd de vue au Maroc. Il n'a plus de nouvelles aujourd'hui.
Bon, maintenant, comme j'ai vécu la route, donc pour moi, maintenant, je suis mature, en fait, d'une part. Donc, du coup, si je réfléchis à ce que j'ai vécu, je me dis... Bon, au début, les enfants, ils réfléchissent pas beaucoup. Parce que actuellement, si on me dit de passer par la mer, tu vas me tuer avant de passer par la mer, mais je ne passerai plus là-bas.
Passer par là?
Par la mer, où j'ai failli laisser ma vie. Donc
c'est l'enfer. Beau. Tu l'as écrit, d'ailleurs, la traversée.
Ouais.
Si on t'avait dit, tu l'aurais pas fait. Si t'avais su.
Si j'avais su au début. Voilà. Et le problème, même si t'as pas envie aussi, si tu arrives au bord de la mer, et tu ne peux pas t'y retourner parce que les arbres, ils n'acceptent pas. Mmh. Dès que tu es au bord de la mer, tu es obligé de faire ce qu'on t'a dit de faire. Voilà. C'est une question de survie ou de mort. Donc, c'était comme ça. Et bon, comme nous, on est là, on est vivants. Donc, on raconte. Mais pour les autres qui sont morts.
C'est ce qui le fait écrire, tenir, témoigner. Il veut raconter le passé pour écrire l'avenir, le sien et celui de la Guinée. Quand je lui demande s'il imagine un jour retourner au pays et s'engager politiquement, il nous dit pourquoi pas. La Guinée, ça m'intéresse. La Guinée est riche. Ce sont les gens qui sont pauvres. Extrait de son texte « La traversée ». Ne pleure pas, petit homme. Tu sais, j'en ai vu des gens. Envahis par la mer sans sauvetage. Des femmes séparées de leurs enfants. Sans pouvoir rien faire. J'ai vu beaucoup de choses. La perte de la vie, surtout. Je quitte Souleymane avec un sentiment confus de tristesse et de joie. Tristesse qu'un gamin comme lui ait dû traverser toutes les peurs de l'humanité pour respirer dignement. Joie de le savoir fort de l'écriture, de ce talent qu'il a, de son courage d'apprentissage et de son ouverture d'esprit. C'est un garçon extraordinaire. Ils sont extraordinaires, ces mômes qui arrivent. Ils ont tant à nous apprendre et nous pourrions tellement les aider autrement qu'à coup de donations aux ONG. Plus je lis Souleymane, plus les gueules de Zemmour, de Le Pen à la télé et tous les autres me sont insupportables. Si nous savions écouter la jeunesse, le monde aurait un espoir, des idées, une belle énergie constructive et certainement pas de tels candidats à la présidence pour la France. Mais nos sociétés blanches et patriarcales continuent de dominer la jeunesse comme le reste, comme les autres. Et même si nous avançons dans cette déconstruction de modèles, il faudra des années pour ne plus voir des bouffons, qu'ils soient noirs ou blancs, bousiller nos envies de fraternité. En attendant, j'espère que Souleymane va s'accrocher, qu'il viendra de temps en temps me montrer ses textes. J'espère surtout qu'il n'arrêtera pas d'écrire, parce qu'il a une voix singulière, des mots éclatants de rage, et parce qu'une terre sans poète n'a pas d'avenir. Je ne sais pas comment le remercier pour ces heures bouleversantes passées en sa compagnie. Alors je lui apporte le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Dans son essai, il fut le premier à définir le colonialisme comme une honte du XXe siècle et à inventer le concept de négritude pour réclamer la reconnaissance de l'histoire et de la culture noire. En quittant cette chambre agitée, tourmentée, désordonnée, mais riche, riche en mots, explosion d'idées, en pensées humanistes, je repense à celle que j'habitais à son âge sous les toits et à cette solitude sauvage de l'écriture qui était déjà là. J'espère que Souleymane parviendra à l'apprivoiser, à ne plus la redouter, même lorsque la lune paraît. J'espère qu'il poursuivra ses balades dans la campagne, seul, les mains dans les poches, tel un Rimbaud contemporain, qui préfère laisser son téléphone chez lui parce que vraiment, toutes ses connexions aux réseaux sociaux lui bouffent la tête et que, comme il le dit, il a bien autre chose à penser. Ce podcast a été réalisé à Pézenas dans le cadre de la résidence Chambre adolescente, projet de Juliette Mass et Jovitech. Sur ce territoire, avec l'association Samanras et le soutien du service culturel de la ville de Pézenas.